Stéphane Alix, nous allons parler avec lui de ce livre « Après, quand l'au-delà nous fait signe », c'est publié aux éditions Albin Michel. Stéphane Alix, on rappelle en quelques mots votre parcours et puis votre expérience qui est quand même assez surprenante.
Je suis journaliste, moi, depuis une trentaine d'années maintenant. Et il y a de ces 17 ans, j'ai perdu mon frère dans un accident de voiture qui a évidemment créé un bouleversement terrible dans ma vie, dans ma famille, et qui m'a incité à utiliser les méthodes que j'utilisais auparavant pour travailler sur des sujets conventionnels, mais pour travailler cette fois-ci sur la question de la mort, la conscience, est-ce qu'il y a une vie après la mort, qui a priori était, je pensais, un sujet complètement surnaturel ou réservé au domaine du religieux, et qui après un début d'enquête s'est avéré être un sujet tout à fait sérieux et sur lequel je travaille maintenant depuis plus de 10 ans.
Alors donc dans ce livre, Quand l'au-delà nous fait des signes, ce sont des témoignages que vous avez retrouvés et on s'aperçoit quand même que ces témoignages sont très nombreux en France mais aussi à travers le monde.
Alors, en fait, avant même de commencer à m'intéresser à ces sujets, j'avais déjà entendu ce genre d'histoire. Alors on parle de quoi, des contacts avec l'au-delà? On parle de ces expériences qui suivent en général un décès brutal ou pas brutal nécessairement d'ailleurs, où des gens disent avoir senti la présence d'un défunt ou avoir rêver de lui, ou alors avoir eu des signes, ou parfois même avoir eu la vision de ce défunt, j'allais dire en chair et en os, non, mais comme ce qu'on va appeler un fantôme en fait. Est-ce qu'on est dans le domaine de l'imagination, du délire, de la compensation due à la souffrance d'un deuil? Ça, c'est des questions qui se posent, mais ce qui m'a frappé, c'est le nombre, comme vous l'avez souligné, incroyable de ces témoignages-là. Les études montrent qu'entre 25 et 50% des gens en deuil vivent ce type d'expérience. Donc rien qu'en France, chaque année, ça représente plus de 150 000 personnes, 150 000 familles qui sont concerné par ça. Donc ça méritait quand même une enquête et effectivement mon investigation sur ce sujet-là m'a permis de découvrir que les témoins sont les premiers à se poser des questions sur ce qui leur arrive. Ce ne sont pas des gens qui essaient de vous convaincre de l'existence de l'au-delà ou des fantômes ou je ne sais quoi. Et quand on va voir des psys, quand on va voir des gens qui essayent d'aider ces gens en deuil, ce sont les premiers à vous dire on n'est pas dans des hallucinations, on n'est pas dans un mécanisme de compensation émotionnelle, on est dans quelque chose de profondément mystérieux qui ne s'explique pas. Et en fait, peut-être que 150 000 personnes par an en France sont témoins de signes qui sont adressés depuis l'au-delà et on fait comme si de rien n'était et on n'en parle pas et on laisse ces gens dans la solitude et on continue à être dans une espèce de déni absolument absurde et complètement irrationnel autour de ces expériences.
Est-ce que c'est pas une confrontation entre ce que l'on appelle le paranormal et la religion, telle qu'elle soit?
Pour moi, le paranormal, c'est juste un mot posé sur des phénomènes qu'on n'explique pas encore ou qu'on n'explique que partiellement. Et la religion, c'est des dogmes élaborés par des êtres humains à partir d'expériences spirituelles vécues par des prophètes ou des guides qui donnent aussi effectivement un angle de vue, une interprétation de ces phénomènes extraordinaires. Moi, je ne suis pas un spécialiste des religions, donc je ne vais pas dans ce domaine-là. Et j'aime pas le terme surnaturel parce que je pense que ces expériences, elles font partie du naturel, elles font partie de notre existence. C'est juste notre ignorance des mécanismes qui les génèrent qui fait qu'on utilise ces termes-là. Mais quand moi-même j'ai vécu des expériences un peu curieuses après la mort de mon père, dont je parle d'ailleurs dans Après, je n'ai pas vécu d'expériences surnaturelles. J'ai vécu des expériences humaines, comme vivent des centaines de milliers de personnes. Et en faisant une enquête, en faisant un travail scientifique, on s'aperçoit que ces expériences ne sont pas réductibles à des interprétations conventionnelles comme hallucinations ou délires ou choses comme ça.
Stéphane Alix, est-ce qu'il y a une corrélation, des similitudes parmi tous ces témoignages?
Oui, la chose qui moi me surprend le plus en fait, c'est le recul et la sincérité des témoins. Quand il vous arrive quelque chose d'un peu inexpliqué, vous allez la plupart du temps avoir tendance à douter de vous-même d'avoir vécu ça. Et en fait, c'est la position inverse de celle qu'on attendrait. En tant que journaliste, ou quand vous posez la question à des gens dans la rue, quand vous leur parlez d'extraordinaires, leur premier réflexe, c'est de dire « oui, ces gens-là inventent, ils veulent vous convaincre qu'ils ont vécu quelque chose ». Et en fait, c'est exactement l'inverse. Donc la similitude de ces pères, de ces mères, de ces conjoints qui ont perdu quelqu'un de proche et qui témoignent dans Après, c'est vraiment d'avoir été surpris par l'expérience qu'ils n'attendaient pas. Et cette spontanéité, ce côté inattendu de ces expériences-là, pour moi, est un gage d'authenticité important.
Quand vous dites « on demande des preuves et elles sont devant nos yeux », est-ce que ce sont des preuves qui pourraient être considérées comme scientifiques ?
Mais bien sûr. Mais vous savez, la science n'évolue pas parce que tout d'un coup, on aurait des preuves qui deviendraient indiscutables et puis finalement, elle serait acceptée par tout le monde. La science est une communauté faite d'individus extrêmement divers, avec chacun des opinions très diverses. Et au bout d'un moment, les preuves de l'existence de tel ou tel phénomène finissent par s'accumuler et à convaincre une majorité. Et je pense qu'on est dans ce moment de bascule. Moi, j'ai rencontré depuis plus de 10 ans que je m'intéresse à ces phénomènes énormément de médecins, de psy, de chercheurs dans différentes disciplines qui s'intéressent à ces questions autour de la conscience, qui sont stupéfaits de voir le nombre incroyable d'expériences de toutes sortes autour de ces sujets-là, notamment les expériences de mort imminente par exemple, et qui, plutôt que de les mettre sous le tapis en disant « bon bah finalement c'est un peu bizarre mais je m'en fiche, ça doit être du surnaturel », se sont dit « mais qu'est-ce que ces expériences ont à me dire sur la réalité ?» Parce que peut-être que ma réalité, il faut que je la révise en fonction au vu de la multiplicité de ces expériences. Donc voilà, la communauté scientifique est, je pense, en train d'évoluer et dans ce moment de bascule, où dans peut-être 5-10 ans, la majorité aura admis que la conscience humaine survit sans doute à la mort du corps.
Alors je prends une expérience, des expériences qui ont été faites, et je vais prendre exprès celle de Victor Hugo et des tables spirites à Jersey, où il communiquait à la fois avec sa fille, mais aussi avec Dieu, avec la mort, avec des entités comme la philosophie ou la littérature et d'autres personnages plus vivants, si je puis dire, même s'ils étaient de l'au-delà. Est-ce que vous faites un rapprochement entre le spiritisme tel que Hugo pouvait le pratiquer et que certains le pratiquent encore aujourd'hui, et justement ces preuves que l'on peut avoir d'un proche?
Bah oui, le spiritisme, vous parliez de preuves, effectivement, ça fait plus d'un siècle que des gens pratiquent ce type de méthode. Victor Hugo et plein d'autres l'ont fait. Après, moi, j'essaie d'appliquer une méthodologie d'enquête sur ce type de phénomène. C'est ce que j'ai fait dans le test, qui vient de sortir d'ailleurs en livre de poche. Faire tourner une table en invoquant un mort et en pensant que les messages qui viennent de la fille, par exemple, de Victor Hugo, lui, il le pensait, il le ressentait, mais quelles preuves on a que c'est sa fille? On n'a pas forcément d'éléments tangibles. Le spiritisme ouvre des portes sur le monde invisible. Qui se présente, ça, on n'en a pas forcément une certitude absolue. Donc moi, dans le test, je suis allé faire une séance de spiritisme, mais à la manière moderne et de façon scientifique, en cachant des objets dans un cercueil et en allant voir des médiums pour voir s'ils étaient capables de communiquer avec le défunt qui me donnerait les objets. Et quand ça a été le cas, quand ça a marché, non seulement ça a été bouleversant pour moi parce que cette personne, c'était mon père, mais c'était aussi pour moi une preuve indiscutable qu'il y avait une communication qui s'est établie avec une bonne personne. Donc tous ces phénomènes, le spiritisme, toutes ces approches dont on entend parler dans tous les sens, mais aussi les religions et les traditions spirituelles, moi j'essaie de mettre tout ça à la moulinette de la science et de la réplicabilité. Est-ce qu'on peut faire une analyse, une enquête sur ces phénomènes? Oui, on le peut. Et qu'est-ce que ces enquêtes nous apprennent? C'est ce que je publie dans mes livres, Le Test et Aujourd'hui Après.
Merci Stéphane Alix. Donc Le Test s'est publié, vous le venez de dire, aux éditions du Livre de Poche. C'est ressorti un Livre de Poche. Et puis après, Quand l'au-delà nous fait signe, c'est aux éditions Albin Michel. Merci à vous.
Merci beaucoup.